Bonjour chers amis, nous sommes le vendredi 26 novembre 2010 et nous allons parler de la cuisine française au patrimoine mondial. Un fait vient d'intervenir le 16 novembre 2010, le classement par l'UNESCO au patrimoine mondial du repas gastronomique des Français. Ce classement étant fait au titre du patrimoine culturel et matériel de l'humanité. Les autorités françaises ne se tiennent plus de joie, car c'est la fin d'un long processus. Pour arriver à leur fin, les autorités ont déployé des grands moyens. Une foule de démarches diplomatiques pendant 4 ans ont été entreprises pour décrocher cette décoration de pacotille à grand renfort de dépenses publiques, c'est-à-dire d'impôts qui ruinent les restaurateurs petits ou grands ainsi que leurs clients. C'est l'occasion d'analyser cette gigantesque arnaque internationale. Comment et pourquoi le patrimoine mondial ? Cela remonte à 1972, date à laquelle l'ensemble des États ont donné à l'UNESCO le droit exorbitant de classer dans un prétendu patrimoine mondial des monuments. C'était une atteinte grave au droit de propriété. L'avis des UNESCO-crates pour l'extension rémunératrice de leur pouvoir voyaient un champ illimité s'ouvrir devant eux, après les monuments, vers les sites comme les rivages de la Seine, où les odeurs, la fameuse place El Djamena à Marrakech, fut distinguée pour ses atmosphères et ses odeurs, et maintenant c'est l'immatériel. Comme dans toute entreprise publique, le miroir aux alouettes est tendu savamment aux futures victimes. Pour les monuments, il est facile de séduire les élus locaux, toujours ardents, pour dépenser de l'argent enlevé par la force à leurs citoyens. Il leur est facile de faire célébrer par la presse subventionnée le supposé honneur que la ville recevra et d'annoncer de mensongers bénéfices pour les habitants. Pour bien montrer l'utilité du classement de la Loire, les fonctionnaires viennent de planter tout au long du fleuve des panneaux dénommés girouets. Quant aux propriétaires privés de monuments, il est facile de les allécher par la promesse de grasses subventions. Du côté des UNESCO-crates, pas de problème pour exciter leur enthousiasme. Quoi de plus grand et délicieux que de se prétendre d'une façon illégitime en droit de juger d'un tel classement ? De multiples voyages dans de luxueux hôtels s'imposent pour apprécier la valeur de tels monuments. Notons que dès lors qu'il s'agit de gastronomie, les fourchettes sont en état d'alerte maximum. La régalade est générale au détriment de tous les affamés de la planète. La ruine vient inévitablement et d'abord par la richesse de l'UNESCO dont le budget est en accroissement constant. Dans ce budget, les salaires et avantages particuliers des 175 directeurs et 1000 consultants comptent pour une large part comme dans tout dinosaure international conscient de sa dignité. De la richesse accumulée découlent les impôts dans le monde entier. L'organisation, seule maîtresse de sa communication, montrera facilement que les frais sont minimes par rapport à la population mondiale. C'est le faux raisonnement de la goutte d'eau, utilisée sans arrêt par les prédateurs publics étatiques qui omettent de rappeler que des milliards de gouttes d'eau forment le torrent dévastateur qui engloutit la richesse générale. S'agissant du prétendu patrimoine mondial, il s'ajoute dans les causes de ruine le choix arbitraire des lieux, des odeurs ainsi que de l'immatériel. Pourquoi pas la cuisine chinoise ou indienne ? Les réglementations sont particulièrement nocives. Derrière le classement se cache une réduction grave du droit de propriété et en particulier des restrictions supplémentaires au droit de construire. Pour la cuisine française, il convient de s'interroger sur les futures réglementations. Le bœuf bourguignon ou le gratin dauphinois seront-ils soumis à des normes fixées pour l'éternité avec sanctions à l'appui ? D'autres perspectives ne sont guère encourageantes. La France est engagée pour obtenir le classement à une politique de promotion, de sensibilisation, d'information et de transmission aux plus jeunes ainsi qu'à nos descendants. Quand il s'agit de dinosaures internationaux dans la mouvance de l'ONU, les dérives idéologiques ne sont jamais loin. En 1984, les USA avaient quitté l'organisation pour deux raisons. D'abord, la gestion était catastrophique avec une foule de malversations à l'appui. En plus, l'UNESCO était un repère de marxistes et elle l'est restée. Pour se distraire et illustrer en même temps le propos sur la ruine, voici un scoop. Quand les USA partirent avec fracas, l'UNESCO avait un gros problème de budget. Il fallait à tout prix revoir les dépenses, d'autant plus que la Grande-Bretagne et Singapour avaient su en 85. Les directeurs multiples n'étaient pas capables de prendre les décisions d'économie nécessaires sans partir d'urgence en séminaire lointain pour les étudier. Où eut lieu le séminaire ? À Taormine, ce lieu parfaitement magique en Sicile, où l'on voit les fumerolles de l'Etna, sans risquer d'avoir trop chaud. La Grande-Bretagne a pour sa part réintégré l'organisation en 1997. Les Américains sont revenus peu après sous le prétexte que depuis la chute du Berlin, le marxisme n'était plus dangereux, ce qui est évidemment faux. Quant aux malversations, il y a des chances qu'elles continuent de plus belle, car elles sont monnaie courante, si l'on peut dire, dans ces organismes où les vrais contrôles n'existent pas. Au titre des dérives idéologiques, l'UNESCO a innové d'une façon terrifiante en rendant public le texte des droits de l'animal. Je cite « Considérant que la vie est une, tous les êtres vivants ayant une origine commune et s'étant différenciés au cours de l'évolution des espèces, considérant que tout être vivant possède des droits naturels et que tout animal doté d'un système nerveux possède des droits particuliers, après avoir dit que l'espèce humaine n'est qu'une espèce animale parmi les autres, elle termine en exigeant que la défense et la sauvegarde de l'animal aient des représentants au sein des gouvernements et organismes. Autre dérive à signaler, le panthéisme. Un document de l'UNESCO de 1991 condamne la tradition judéo-chrétienne envers l'environnement et condamne la Genèse. Le secrétaire général de l'ONU, à l'époque Boutros Ghali, avait fait à la conférence de Rio l'apologie du polythéisme. Si la France, en toute sagesse et logique, sortait de l'UNESCO, les idiots utiles du patrimoine mondial se déchaîneraient. Parmi eux, les intérêts conjugués signalés plus haut feraient barrage. Ils ne savent pas qu'en fait, les intéressés payent par leurs impôts bien plus que ce qu'ils croient recevoir. Les prétentieux et les cuistres crieraient à l'attentat contre la culture. Il faut dès lors rappeler que la culture ne saurait être imposée par la force et qu'elle n'est valable que si elle s'exerce dans la liberté que fournit le marché. Il est vrai que les UNESCO-crates ne peuvent comprendre un tel raisonnement à force de se considérer eux-mêmes comme des animaux. Ils doivent voir se rétrécir leurs capacités cognitives, ce qui ne les empêche pas de partager avec leurs frères jumeaux une voracité bien connue. Chers amis auditeurs, je vous dis à mardi prochain.